Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage Les aventures de Tom Sawyer, Tom T-O-M, plus loin Sawyer, S-A-W-Y-E-R, par Mark Twain, M-A-R-K, plus loin T-W-A-I-N, traduit de l'anglais par François de Gail, G-A-I-L. Édition Mercure de France, Gallimard, collection Folio Junior, édition spéciale, 1987. Né en 1835, Mark Twain, l'auteur, son nom véritable est Samuel Langhorne Clemens, L-A-N-G-H-O-R-N-E, plus loin C-L-E-M-E-N-S, et Mark Twain est un pseudonyme, grandit à Hannibal, H-A-2-N-I-B-A-L, petit village sur la rive droite du grand fleuve américain, le Mississippi. À 18 ans, il s'engage comme pilote sur le fleuve, et amasse des connaissances qui lui permettront plus tard d'écrire Tom Sawyer. Il a 26 ans quand éclate la guerre de sécession entre le nord des États-Unis et le sud des États-Unis. Né dans le sud, il refuse de se battre pour le maintien de l'esclavage et s'enfuit dans les montagnes de l'ouest où il se fait chercheur d'or, mais sans succès. Il devient alors journaliste et publie Tom Sawyer en 1876, suivi 8 ans plus tard de Huckleberry Finn. Mort le 21 avril 1910, Mark Twain est considéré comme un des meilleurs écrivains américains, rêveur et visionnaire. Cette histoire se passe donc dans le sud des États-Unis, vers 1840 environ. Il y a à peu près 150 ans, dans un village qui s'appelle Saint-Pétersbourg, comme la grande ville de Russie. Les gens dans ce pays-là sont protestants. Il y a des blancs, il y a des noirs aussi, qui sont esclaves. Les noirs sont très pauvres, mais pas tellement malheureux, comme on nous le dit souvent des esclaves. Ce sont surtout des pauvres gens, serviteurs, ouvriers agricoles, etc. Pas très bien traités quand même. Préface écrite par Mark Twain. La plupart des aventures relatées dans ce livre sont vécues. Une ou deux me sont personnelles. Les autres sont arrivées à mes camarades d'école. Huck Finn est décrit d'après nature. Tom Sawyer aussi. Les traits de ce dernier personnage sont toutefois empruntés à 3 garçons de ma connaissance. Les superstitions plus ou moins bizarres dont il est question ici étaient fréquemment en honneur chez les enfants comme chez les esclaves de l'Ouest à l'époque de ce récit, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans depuis 1876 où Mark Twain écrivait sa préface, bien sûr. Bien que ce livre ait surtout pour but de divertir les garçons et les filles, j'espère qu'il n'en sera pas moins apprécié par les grandes personnes auxquelles je me suis également proposé de remémorer pour leur agrément l'ambiance dans laquelle elles ont vécu, leurs sentiments, leur mentalité d'alors et les entreprises parfois étranges auxquelles elles ont pu se trouver mêlées. Chapitre 1er, Jeux et combats.
Tom !
Pas de réponse.
Tom ! Mais où est-il encore passé ? Voyons, Tom !
Toujours pas de réponse. La vieille dame abaissa ses lunettes et regardant par-dessus, elle inspecta la pièce. Puis elle releva ses lunettes sur son front et recommença le même manège en regardant par-dessous. Il lui arrivait rarement, il ne lui arrivait même jamais, de regarder à travers ses lunettes quand elle s'adressait à un être d'aussi peu d'importance qu'un jeune garçon. Les lunettes étaient pour elle un ornement dont elle tirait vanité, plutôt qu'un objet d'utilité courante. En fait, si la monture lui inspirait un orgueil légitime, les verres ne lui rendaient guère plus de service que si elle eût regardé à travers deux couvercles de casserole. Pendant un moment, elle parut perplexe. Enfin, sans colère, mais à voix suffisamment haute pour être entendue des meubles, elle dit
« Si jamais je te mets la main dessus, je... »
Sa phrase resta inachevée. Tout en parlant, elle s'était penchée en avant et envoyait de grands coups de balai sous le lit. Entre deux séries de coups, il lui fallait reprendre haleine. Tout cela pour ne déranger que le chat.
« Oh, je n'ai jamais vu un garlopin pareil !»
Elle se dirigea vers la porte ouverte. Du seuil, elle examina les tiges de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient le plus bel ornement de son jardin. Mais de Tom, pas l'ombre. Élevant la voix de façon à se faire entendre à distance, elle héla.
« Oh, Tom !»
Tout près d'elle, elle perçut un léger bruit. Elle se retourna juste à temps pour attraper par les basques de sa veste un jeune garnement qu'elle arrêta dans sa fuite.
« Évidemment, j'aurais dû penser à ce placard, mais qu'est-ce que tu as encore été faire là-dedans ?»«
Rien, tante. »«
Rien ? Regarde tes mains, regarde ta bouche. Avec quoi t'es-tu barbouillé comme ça ?»«
Je ne sais pas, tante. »
« Moi, je le sais, je vais te le dire. C'est avec de la confiture. Voilà 36 fois que je te dis que si tu touches à la confiture, tu auras affaire à moi. Passe-moi cette baguette. »
Aux mains de la tante, la baguette décrivit dans l'air des cercles menaçants. La situation devenait intenable.
« Oh, ma tante, regardez, regardez derrière vous !»
La vieille dame fit brusquement volte-face. En un geste instinctif de protection, elle serra ses jupes. Mettant à profit cette diversion, le gamin s'échappa, escalada la haute clôture en planche et disparut de l'autre côté. La tante Polly resta un moment tout interloquée, puis elle prit le parti de rire de l'incident.
« Ah, diable de gosse, et toujours je m'y laisse prendre, comme s'il n'avait pas joué à ses tours pour que je m'attende à toute sa part. « Mais les vieux fous sont les plus fous. Vieux chien n'apprend plus rien, comme on dit. Il ne joue jamais le même tour deux fois de suite. Avec lui, on ne sait jamais ce qui va arriver. On dirait qu'il sait jusqu'où il peut aller sans que je me mette en colère. Et que s'il détourne mon attention, s'il me fait rire, c'est fini. Je suis désarmé. Ah, Dieu me pardonne, je ne remplis pas mon devoir vis-à-vis de cet enfant. Qui aime bien, châtie bien. » La Bible a raison. J'ai tort d'être indulgente. Cela ne lui rend pas service, bien sûr. Mais après tout, il n'en est pas moins le fils de ma chère sœur qui n'est plus la pauvre. Et je n'ai pas le courage de le corriger. Quand je lui pardonne, ma conscience me fait des reproches. Et quand je le punis, c'est mon cœur qui n'est pas content. L'homme né de la femme ne vivra pas longtemps et il aura beaucoup d'ennuis. C'est la Bible qui le dit. Et il faut croire que c'est vrai. Il fera sûrement l'école buissonnière cet après-midi et il faudra pour le punir que je le fasse travailler demain. Ah, c'est dur de le faire travailler le samedi quand tous ses camarades sont en congé. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le travail. Et il faut que j'accomplisse mon devoir vis-à-vis de lui. Sinon, c'est un très mauvais service que je lui rends.
Tom fit l'école buissonnière et il s'amusa beaucoup. Il rentra juste à temps pour aider Jim, le jeune esclave noir, à scier le bois et à fendre le petit bois du lendemain avant le dîner. C'est-à-dire juste à temps pour raconter à Jim l'emploi de sa journée pendant que Jim abattait les trois quarts de la besogne. Quant à Sid, S.I.D., le frère ou plutôt le demi-frère cadet de Tom, il s'acquitta de sa tâche qui consistait à ramasser les éclats. C'était un garçon tranquille et qui ne cherchait pas aventure. Pendant que tout en dînant, Tom profitait de chaque occasion qui s'offrait de subtiliser un morceau de sucre, la tante Polly lui posa nombre de questions insidieuses qui, sans en avoir l'air, devaient lui extorquer de dangereuses révélations. Comme beaucoup d'âmes simples, elle s'imaginait naïvement avoir des dons de diplomate. Et elle se plaisait à considérer ses ruses les plus cousues de fil blanc comme les chefs-d'œuvre d'une astuce raffinée.
« Tom, il faisait chaud à l'école, dis-moi. »«
Oui, tante. »«
Très chaud. »«
Oui. » »«
Cela ne t'a pas donné envie d'aller te baigner ?»
Cette dernière question éveilla les soupçons de Tom. Pressentant le danger, il scruta le visage de sa tante, mais n'y découvrit rien de suspect. Il répondit
« Non, enfin, pas tellement. »
La vieille dame étendit la main pour tâter la chemise de Tom. Puis elle dit
« Mais tu n'as pas trop chaud maintenant, en tout cas. »
Elle était très fière d'avoir constaté que la chemise de Tom était sèche, sans que personne eût pu comprendre que c'était là l'objet de ses recherches. Malgré cela, Tom vit où elle voulait en venir. Pour parer une nouvelle attaque, il la devança.
Nous nous sommes pompés de l'eau sur la tête. J'ai les cheveux encore tout mouillés. Tiens, regarde. »
La tante Polly, bien obligée de s'avouer que ce détail lui avait échappé, en fut humiliée. Elle avait perdu un point. Mais elle eut une autre idée.
Tom, pour qu'on te pompe sur la tête, tu n'as pas dû avoir besoin d'enlever le col de ta chemise. Là où je l'ai cousu, dis-moi, déboutonne ta veste.
Le visage de Tom se rasséréna. Il déboutonna sa veste. Le col était bel et bien cousu à la chemise. À cette époque, on avait souvent ce qu'on appelait un faux col, c'est-à-dire qu'on avait une chemise sans col et on y cousait un col séparé.
Ça va, hein, je m'étais figuré que tu avais fait l'école buissonnière et que tu avais été prendre un bain. Mais je te pardonne, Tom, tu es comme le chat de la fable, moins mauvais que tu n'en as l'air. Va pour cette fois.
Elle était à moitié vexée que sa sagacité ait été prise en défaut et à moitié contente de voir que, pour une fois, Tom s'était amendé. Par malheur, Sidney, c'est-à-dire Sid, intervint.
« Mais ma tante, vous lui aviez cousu son col avec du fil blanc, et maintenant il est cousu avec du fil noir. »« Ah oui, bien sûr, j'avais pris du fil blanc. Tom !»
Tom s'était esquivé sans demander son reste. Arrivé à la porte, il se retourna.
« Sid, tu me paieras ça !»
Une fois en sûreté, Tom retourna les revers de sa veste, sous lesquels étaient piquées deux grandes aiguilles, l'une garnie de fil blanc, l'autre de fil noir. Sans cet animal de Sid, elle n'aurait jamais vu le truc. Et puis zut! Tantôt elle se sert de fil blanc, tantôt elle prend du fil noir. Il n'y a pas moyen de s'y reconnaître. Pourquoi ne fait-elle pas toujours la même chose? Mais Sid, lui, il ne perdra rien pour attendre. Qu'est-ce que je vais lui passer? Tom n'était pas l'enfant modèle du village. Il savait très bien qui était l'enfant modèle et il le détestait. Au bout de 2 minutes à peine, il avait oublié toutes ses mésaventures. Non qu'il attachât à ses soucis moins d'importance qu'un homme n'en attache au sien, mais parce qu'un intérêt nouveau, un intérêt puissant, les éclipsait et les lui faisait momentanément oublier. Ainsi, un homme absorbé par une entreprise nouvelle perd conscience de ses ennuis anciens. Cet intérêt de fraîche date consistait en une nouvelle façon de siffler qu'un noir venait de lui apprendre. Il en faisait grand cas et il était impatient de s'y exercer sans être dérangé. C'était une espèce de gazouillement d'oiseau, une sorte de roulade imitative obtenue pendant le sifflement par des contacts de la langue sur le palais à intervalles rapprochés. Tout lecteur qui se rappelle avoir été jeune saura ce que je veux dire. Tom y mettait tant d'applications qu'il ne tarda pas à acquérir une véritable maîtrise en la matière. Et bientôt, il parcourait les rues, des flots d'harmonie plein la bouche et de la gratitude plein le cœur. Son état d'esprit ressemblait à celui d'un astronome qui viendrait de découvrir une nouvelle planète. Les soirées d'été sont longues. La nuit ne tombait pas encore. Tout à coup, Tom cessa de gazouiller. Un étranger, un garçon tant soit peu plus grand que lui, venait à sa rencontre. Dans les rues du pauvre et paisible petit village de Saint-Pétersbourg,
un nouveau venu de l'un ou l'autre sexe, quel que soit son âge, faisait sensation. Et ce jeune garçon était bien habillé. Bien habillé un jour de semaine. À lui seul, ce fait constituait déjà une rareté. Son chapeau était à la dernière mode. Son complet bleu sortait de chez le bon faiseur. Alors qu'on n'en était encore qu'au vendredi, il avait déjà des chaussures aux pieds. Il portait même une cravate. Une cravate aux couleurs vives. Plus Tom le regardait, plus il se donnait l'air de dédaigner une telle élégance et plus son propre accoutrement lui paraissait minable et débraillé. Ni l'un ni l'autre n'ouvrait la bouche. Si l'un avançait, l'autre avançait, mais de côté, de sorte qu'il tournait en rond. Il ne se quittait pas des yeux. N'y tenant plus, Tom finit par dire: je ne serais pas en peine de te flanquer une raclée, tu sais.
Eh bien, je voudrais bien voir ça, dit le jeune élégant.
Oh, c'est pas ça qui me gêne.
Essaye un peu.
Tu vas voir.
Je t'en défie.
Un silence inquiétant s'ensuivit. Puis Tom: comment t'appelles-tu?
Ça ne te regarde pas.
Mettons que ça me regarde.
Eh bien, prouve-le.
Un mot de plus et je...
Voilà un mot, voilà deux mots, voilà trois mots. Et alors?
Ne fais pas le malin. Je te rosserai d'une main si je voulais.
Oh, c'était pas tout de dire.
Je le ferai si tu continues.
J'en ai vu plus d'un comme toi.
Pour qui te prends-tu, malin? Ce chapeau!
Si mon chapeau ne te plaît pas, tant pis pour toi. Je te défie de me l'enlever. Tu verras ce que tu vas prendre.
Menteur, dit Tom.
Menteur toi-même.
Le plus menteur des deux, reprit Tom.
Prends garde.
Si tu ne sais pas, je t'envoie un pavé sur la tête.
Qu'as-tu dit?
Je le ferai.
Tu dis tout le temps que tu vas le faire et puis tu ne le fais pas. Tu as peur?
Non, je n'ai pas peur.
Tu as peur?
Je n'ai pas peur.
Tu as peur?
Nouveau silence, nouvelle manœuvre de côté. Les adversaires se mesuraient du regard. Les voici épaule contre épaule. Et Tom reprend. Va-t'en de là.
Va-t'en toi-même.
Je ne m'en irai pas.
Eh bien, moi non plus.
Tous deux, arc-boutés sur une jambe, se poussent l'un l'autre, de toutes leurs forces en échangeant des regards haineux. Mais ni l'un ni l'autre ne peut prendre l'avantage. En nage, le sang à la tête, chacun relâche son effort avec une sage lenteur. Puis Tom dit: tu es un lâche et un poltron. Je le dirai à mon grand frère, il peut te flanquer par terre d'une chiquenaude. Tu verras ça.
Je me fiche pas mal de ton grand frère, dit l'autre. J'ai un frère plus grand que lui. Il te fera passer par-dessus la clôture en moins de deux.
Inutile de dire qu'il n'y avait pas plus de grand frère d'un côté que de l'autre. Menteur!
Ce n'est pas parce que tu le dis que j'en suis un.
De son orteil, Tom traça une ligne dans la poussière et dit: je te mets au défi de dépasser cette ligne. Si tu la passes, je te flanquerai une tripotée dont tu te souviendras longtemps. Et capon qui s'en dédie. Le nouveau venu s'empressa de franchir la ligne interdite.
Eh bien, tu as dit que tu me rosserais. Il faut le faire.
Ne me touche pas, prends garde.
Tu as dit que tu le ferais, ben vas-y.
Pour deux sous, je le fais. L'autre fouilla dans la poche, prit la pièce de monnaie et la tendit d'un air moqueur à Tom, qui la jeta par terre. Aussitôt, les deux gamins s'empoignèrent l'un l'autre et roulèrent dans la poussière, cramponnés l'un à l'autre comme deux chats. Pendant toute une minute, ils se tirèrent les cheveux, déchirèrent leurs vêtements, échangèrent les horions et les égratignures, se couvrant de poussière et de gloire. La mêlée eut une fin. Et du brouillard de la bataille, Tom émergea à califourchon sur son adversaire qu'il martelait de coups de poing. « Dis assez !» cria Tom. L'autre se débattait pour se dégager. Il pleurait, mais surtout de rage. « Dis assez !» reprit Tom, et les coups de poing redoublèrent. D'une voix étouffée, le nouveau venu finit par dire « Assez ! Assez !» Tom le laissa se relever et lui dit: que cela te serve de leçon. Avant de te moquer du monde, tâche de savoir à qui tu as affaire.
L'autre quitta le terrain en secouant la poussière de ses vêtements, en pleurant et en reniflant. De temps en temps, il regardait derrière lui, hochait la tête et proférait à l'égard de Tom les menaces les plus terribles pour la prochaine fois qu'il l'attraperait. Tom ricana et partit de son côté, la tête haute. Aussitôt que Tom eut le dos tourné, le nouveau venu ramassa une pierre, la lança et atteignit Tom entre les deux épaules. Après quoi, il s'enfuit à toutes jambes. Tom poursuivit le traître jusque chez lui, ce qui lui valut de savoir où il demeurait. Il resta un certain temps à la grille, mettant l'ennemi au défi de sortir. L'ennemi se contenta de lui faire des grimaces derrière la vitre et déclina l'invitation. La mère de l'ennemi parut. Elle traita Tom de méchant, de vicieux, de mal élevé et lui intima l'ordre de s'en aller. Tom obtempéra, non sans avoir accablé son adversaire de ses dernières invectives. Il rentra tard ce soir-là et quand il essaya de passer par la fenêtre, il tomba dans une embuscade tendue par sa tante. Lorsque la vieille dame vit dans quel état étaient les vêtements de son neveu, elle n'hésita plus et la résolution qu'elle avait prise de transformer le congé du samedi après-midi de Tom en une demi-journée de travaux forcés devint inébranlable. Chapitre 2. Le sens des affaires. Nous voici au samedi matin. Le soleil d'été darde ses rayons sur le monde qui déborde de vie. Il y a une chanson dans tous les cœurs, et si le cœur est jeune, la chanson monte aux lèvres. Chaque visage exprime la joie, chaque pas dénote l'allégresse. Les caroubiers, ce sont des arbres, resplendissent. L'atmosphère est lourde du parfum des fleurs. Au-delà et au-dessus du village, on voit Cardiff Hill, une colline toute verte de végétation qui s'offre aux yeux comme un pays de cocagne, un pays de rêve et de repos. Sur un trottoir, on voit apparaître le pauvre Tom. Il porte un seau de lait de chaux, CHAUX, et un pinceau à long manche. Le lait de chaux, ça sert de peinture blanche. Il inspecte la clôture dont les dimensions effrayantes le rendent sombre et mélancolique. 30 mètres de long, 9 pieds de haut. 9 pieds, ça fait 2,70 mètres. L'existence lui paraît un fardeau sans intérêt. Avec un soupir, il trempe son pinceau dans le lait chaud et embarbouille la planche supérieure de la palissade. Il répète l'opération, recommence une troisième fois, puis il compare la minuscule surface blanchie à l'immensité de celle qui reste à blanchir et, découragé, s'assied sur une caisse. Jim franchit la grille du jardin. Il a un seau à la main et s'avance en sautillant et en fredonnant un petit air. Aller chercher de l'eau à la pompe du village, c'était une chose que Tom avait toujours détestée. Mais aujourd'hui, cela lui faisait un tout autre effet. À la pompe, il y a toujours beaucoup de monde. Des jeunes gens, des jeunes filles, dont la peau présente toutes les variétés de nuances, du blanc au noir, y attendent leur tour. On s'y repose, on y joue, on y échange des jouets, on s'y bouscule, on s'y dispute. Tom se le rappelle, chose curieuse, que bien que la pompe ne soit qu'à 150 mètres de distance, il arrivait souvent à Jim, le jeune serviteur noir de sa tante Polly, de ne revenir avec son seau qu'au bout d'une heure, et encore fallait-il aller le chercher.
Dis donc, Jim, dit Tom, si tu badigeonnais un peu, j'irais puiser de l'eau pendant ce temps-là.
Jim secoua la tête.
Pas moyen, massa Tom. Maîtresse m'a dit d'aller chercher de l'eau, de ne pas m'amuser en route. Elle a dit qu'elle pensait que massa Tom me demanderait de badigeonner, et alors elle m'a dit d'aller mon chemin, et de faire ce que j'ai à faire. Et elle a menacé de venir elle-même badigeonner la clôture.
T'en fais pas pour ce qu'elle a dit, Jim. C'est sa façon de parler. Donne-moi le seau. Je n'en ai que pour une minute. Elle n'en saura rien.
Oh, je n'ose pas, Massa Tom. Maîtresse m'arracherait la tête. Well, oh, penses-tu, elle ne tape jamais pour de bon. Elle donne des coups de dés sur la tête, ça fait peur à personne. Elle crie fort, mais ça ne fait pas de mal. Tant qu'elle ne pleure pas, ça va bien. Jim, je te donnerai quelque chose d'épatant. Une bille. Jim hésita. Une bille blanche, Jim. Une énorme bille blanche. Je ne dis pas non, Massa Tom, mais j'ai peur de maîtresse. Et de plus, si tu acceptes, je te montrerai mon doigt de pied qui est écorché. Jim n'avait rien d'un héros. La promesse d'une telle attraction l'emporta. Il déposa son seau, prit la bille et, passionnément intéressé, se pencha vers Tom pour le voir dérouler son pansement. Un instant plus tard, Jim dévalait la rue, tenant d'une main son seau et de l'autre, comprimant son postérieur endolori, tandis que Tom badigeonnait avec énergie. Triomphante, une pantoufle à la main, Tante Polly quittait le champ de bataille. Mais l'ardeur de Tom ne fut pas de longue durée. Il pensa à tout ce qu'il avait projeté de faire en ce malheureux après-midi. Son chagrin redoubla. Bientôt, ses camarades libres partiraient faire de merveilleuses promenades et il se paierait la tête du pauvre Tom qui, lui, devrait rester là à travailler. Rien que de penser à cela, il se sentait devenir enragé. Il sortit tout ce qu'il avait dans ses poches et il en fit l'inventaire. Des débris de jouets, des billes, quelques autres bricoles, assez peut-être pour marchander l'échange d'un travail contre un autre, mais même pas la moitié de ce qu'il fallait pour acheter une demi-heure de liberté. Il remit en poche son avoir insuffisant et dut renoncer à l'idée de soudoyer un remplaçant. À nouveau, le désespoir allait l'envahir quand, tout un coup, il eut une inspiration, une idée lumineuse, un trait de génie. Fin de la première face de la première cassette, Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 21.